France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Une, deux, trois, c'est avec au moins trois casquettes qu'Olivier Py est avec nous en studio ce matin, même s'il porte un bonnet. Bonjour Olivier Py.
Bonjour.
Directeur du Festival d'Avignon, qui doit présenter à la fin du mois la programmation. On verra tout à l'heure comment vous vous préparez. Olivier Py aussi, comédien et chanteur. Il invite ses amis à Radio France en mai, Olivier Py and Friends, avec Miss Knife. On prendra des nouvelles de votre double de musical. Et puis, écrivain et metteur en scène, avec au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, La Voix Humaine de Francis Poulenc, avec Patricia Petitbon. Et puis, en point d'orgue sur votre livret, musique de Thierry Esquèche, avec Patricia Petitbon encore, mais aussi Cyril Dubois et Jean-Sébastien Bou, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Jérémy Rohrer. D'abord, Olivier Py, je vais vous montrer ceci, on est moderne, c'est sur une tablette, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, vous sortez vos lunettes, un an sans culture avec ce théâtre et cette salle vide, ça fait un an, c'était le 1er mars 2020, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonçait la fermeture des salles de cinéma et des salles de théâtre dans plusieurs départements, et puis on connaît la suite, cette année est passée vite pour vous.
À la fois vite et lentement, au-delà de la sinistrose que ça peut provoquer, de l'inquiétude qu'on peut avoir sur la partie économique du secteur, je crois qu'on a un sentiment d'injustice. C'est pas possible de voir les métros bondés, les soldes remplir les magasins, et de voir les théâtres et les cinémas fermés, en vertu de quoi ? Donc, on a envie de croire que, pour ce gouvernement, la culture n'est pas essentielle. Et c'est dommage de penser ça d'un gouvernement, la République française, qui est censé, au contraire, créer un service public de la culture. Donc je crois qu'il y a eu là quelque chose qui cicatrisera difficilement dans le rapport entre le monde de la culture et les politiques.
Mais vous parlez à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vous êtes le directeur du Festival d'Avignon. Ce que vous dites là ce matin au micro de France Musique, vous avez des échanges avec elle.
Oui, malheureusement, elle a évidemment un devoir de réserve, mais malheureusement, je crois qu'elle partagerait ce que je dis. Je crois qu'elle s'est battue comme une lionne, au moins sur le point budgétaire, elle a réussi sur le côté budgétaire, mais elle n'a pas réussi à faire réouvrir les salles. Je crois qu'elle s'est vraiment battue et qu'elle continue à se battre pour que les salles réouvrent le plus vite possible, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de logique sanitaire à la fermeture des salles, c'est donc une injustice.
Le Théâtre des Champs-Élysées à Paris sera donc sans public à nouveau pour ce mois de mars. Vous allez faire ce spectacle et cette création sans public, ces deux pièces lyriques. Est-ce que vous adaptez vos mises en scène ici, en l'occurrence, aux caméras, à l'absence de public ou pas du tout ?
Vous connaissez la devise de Sarah Bernard, c'était « quand même ». Alors, on va faire notre spectacle quand même, on va le jouer sans public, enfin pour les coproducteurs et quelques amis, mais très peu. Et c'est une grande tristesse, parce que c'est une somme de travail considérable avec Thierry Esquèche. On travaille sur cet opéra depuis plus de 2 ans. Pour les chanteurs, c'est une partition à l'apprentissage difficile, comme souvent la musique contemporaine. Et on va pas le jouer, c'est absolument déchirant. Mais c'est ainsi, il faut le créer, parce que ça donnera des chances de reprise.
Une création sans public, c'est encore une création, Olivier Py ?
Non, pas pour moi, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas la confrontation au public, on ne sait pas ce qui est véritablement l'œuvre qu'on a proposée sur le plateau. On a créé Vlan dans l'œil, une opérette de Hervé à Bordeaux aussi, mise en scène par Pierre-André Vetz, sans public. Alors on a l'impression qu'on ne l'a pas vraiment créé non plus.
C'était en 2013, il y avait du public au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. La musique de Francis Poulenc déjà, Dialogue des Carmélites.
Oh,
Un extrait de cette production Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc en 2013. C'était au Théâtre des Champs-Élysées à Paris avec la voix de Patricia Petitbon. Ici, c'était l'Orchestre National de France dirigé déjà par Jérémy Rorer, une mise en scène d'Olivier Py, un grand spectacle qui tourne, qui continue de tourner partout dans le monde. Quel souvenir en avez-vous, Olivier Py ?
C'est un spectacle qui s'est fait avec beaucoup de facilité. Un metteur en scène devrait toujours faire croire que les choses se font dans la douleur. Mais la troupe était tellement exceptionnelle. Donc il y a eu une grande unité et les choses ont été de l'ordre du miraculeux, comme ça arrive pas toujours dans la vie du théâtre.
Faire la voix humaine de Poulenc, c'est une suite?
Oui, c'est une suite.
Au même théâtre, même chef?
Absolument, même théâtre, même
Patricia
chef.
Patricia Petitbon.
On rêve avec les Champs-Élysées d'ailleurs de faire un jour les Mamelles, quand les théâtres réouvriront. Comme ça, on aura fait tous les Poulenc. Et c'est vrai que on retrouve dans la voix humaine, c'est pas du tout le même sujet, mais on retrouve des petites cellules musicales qui sont des cellules qui sont dans les dialogues. Et quelquefois d'ailleurs sur les mêmes mots, c'est assez troublant.
Alors, la voix humaine, il y a un personnage, c'est très court. Vous l'appréhendez comme un opéra ?
Ah oui, oui, bien sûr, c'est un opéra avec une seule voix. C'est une pièce de Cocteau qui peut sembler un peu mélodramatique, même un peu nunuche, je dirais dans l'époque nouveau féminisme, cette femme un peu masochiste, accrochée à son bonhomme, ça peut sembler un peu ridicule, mais d'abord c'est Cocteau qui se met en scène lui-même, ça c'est très fort, et puis ensuite je crois qu'il a senti quelque chose d'un symptôme dont on a connu toute la violence dans cette période de confinement, c'est-à-dire que notre rapport à l'autre passe par des technologies. Alors à l'époque c'était le téléphone, qui a une sonnerie de téléphone au xylophone, et aujourd'hui bon c'est Zoom ou le téléphone portable, mais le symptôme, Cocteau l'avait compris, c'est-à-dire le fait de vivre avec un téléphone ou avec un ordinateur va nous rendre fous et va rendre nos rapports complètement hystériques.
C'est une production qui ne pouvait se faire qu'avec Patricia Petitbon pour vous?
Ah bah évidemment.
Pourquoi elle... C'est quoi votre rapport?
Ah bah vous savez, quand on aime, on a toujours l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est un rapport presque fraternel. Elle est comme ma petite sœur. Je pourrais dire que je l'ai vue naître aussi. Et puis je l'ai vue naître à des rôles tellement différents, parce que quand je l'ai connue, c'était une soprano qui passait pour légère et dont le jeu passait pour léger, alors que ensemble on a travaillé sur des œuvres très dramatiques comme Loulou, comme les dialogues. Elle est éblouissante dans ce spectacle. Elle est éblouissante. Elle est d'une beauté surnaturelle et d'un engagement. Et à mon avis, elle donne à cette partition quelque chose de tout à fait nouveau, justement débarrassé du mélodramatique, quelque chose de beaucoup plus cru, de beaucoup plus violent qu'on imagine, quelquefois même d'assez drôle, parce qu'il y a aussi de l'humour dans le texte et dans la partition.
La voix humaine, c'est une tragédie lyrique en un acte, courte, on la couple donc, comme on dit. Et ici, vous avez décidé, avec le Théâtre des Champs-Élysées, Michel Franck, avec Thierry Esquèche, le compositeur, de créer une nouvelle œuvre. Point d'orgue, c'est un point d'orgue à la voix humaine ?
Bah, c'est surtout que Thierry Esquèche est organiste, alors j'avais envie de tirer une pièce qui s'appelait Point d'orgue pour qu'il mette pas d'orgue. Mais il n'y a pas d'orgue, c'est pas tout à fait vrai. Mais il y en a toujours avec lui de toutes les façons. Non, je suis un amoureux fou de la musique d'Esquèche. Je suis sorti de son concerto pour orgue que j'avais entendu à Athènes, dans un état proche de l'épilepsie. C'est rare avec un contemporain qu'on ait un lien aussi fort. Et puis on a fait ensemble une très belle pièce avec un livret de Badinter à l'Opéra de Lyon qui s'appelait Claude. Et une amitié s'est créée aussi avec Jérémy Rorer qui dirigeait aussi l'œuvre d'Esquèche. Et donc Thierry m'a demandé de faire un livret qui soit à la fois la suite de la voix humaine ou qui soit l'envers de la voix humaine, c'est-à-dire qu'est-ce que fait cet homme qu'on ne voit jamais dans la voix humaine et qui est à l'autre bout du fil. Donc c'est à la fois la suite et l'envers. Mais je me suis senti assez libre de lui proposer un livret dans lequel il y a quelques liens anecdotiques avec la voix humaine, mais qui n'est pas véritablement une suite de la voix humaine.
Voici un extrait de Claude. C'était aussi d'ailleurs en 2013.
C'était à la fois les sons caressants.
C'était là.
La musique de Thierry Esquèche, le livret de Robert Badinter, Claude, mise en scène par Olivier Epi, c'était en 2013 aussi, ici avec les voix de Rodrigo Ferreira, Jean-Sébastien Bou, tiens, déjà, l'Orchestre National de Lyon dirigé par Jérémy Rohrer. Décidément, vous êtes un fidèle, on retrouve les chanteurs, on retrouve le chef, on retrouve le compositeur, Patricia Petitbon qui revient à chaque fois, ça rassure ?
Oui, c'est un travail fraternel, collégial, c'est très important, cette horizontalité dans le travail artistique. Et puis Jean-Sébastien Bou et Cyril Dubois, qui sont donc les deux garçons, et Patricia.
Alors lui, c'est un nouveau Cyril Dubois dans la bande.
Pour moi, c'est un nouveau, c'est une découverte. Je dois dire que ce qu'ils font tous les trois dans cette œuvre de Esquèche est proprement hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça sur un plateau lyrique.
Vous dites cette œuvre de Esquèche, mais c'est votre œuvre aussi, c'est votre livret d'ailleurs paru chez Actes
Sud,
qu'on peut lire.
Oui, je ne suis que l'humble librettiste.
C'est votre histoire.
Oui, c'est vrai, mais vous savez, si les œuvres d'opéra restent dans l'histoire, c'est quand même quand la musique est grandiose, et d'ailleurs elle l'est, donc j'espère qu'elle restera, qu'elle marquera, parce que c'est vraiment une partition extraordinaire. Je crois que Thierry va vers de plus en plus d'acceptation, de l'émotion, d'une écriture, comment dire, de plus en plus, le mot est faible, mais sincère, mais c'est aussi la chose la plus difficile à trouver en musique. C'est vraiment une écriture qui vient de ses tripes, et il faut pas du tout imaginer que la musique contemporaine est forcément technique, mathématique, cérébrale. C'est pas ça du tout, du tout. C'est tout le contraire même. Et je suis ébloui par cette partition.
Elle, lui, l'autre, ce sont les trois personnages de Point d'Orgue, cette création au Théâtre des Champs-Élysées qu'on verra captée et enregistrée d'ailleurs par France Musique, diffusée le 27 mars. C'est quoi ? C'est la revanche de la femme de la voix humaine ? La revanche d'une rousse ?
Oui, c'est vrai, c'est la revanche d'une rousse, parce que
je disais un peu en plaisantant, parce que Patricia Petitbon est rousse.
Et flamboyante. C'est vrai, je voulais au moins, en écrivant une suite à La Voix Humaine, essayer de sauver cette femme et qu'elle ne passe pas pour une complète hystérique amoureuse d'un pervers polymorphe. mon idée était que peut-être c'était lui, au fond, qui était le grand malade, même si on ne le voit pas dans la pièce de Cocteau, et pas forcément elle. Et dans cette pièce-là, elle triomphe et c'est lui qui sombre. C'est une pièce dont on pourrait dire qu'elle parle de la dépression, mais ce serait la réduire à la psychopathologie. La question est de savoir si dans des états dépressifs, on n'a pas quelques éclairs de génie, et si la transcendance, justement, n'utilise pas quelquefois la psychopathologie. C'est une pièce à trois, donc on a repris le schéma du mari, de la femme et de l'amant, même s'il est légèrement perverti, mais très légèrement, parce qu'au fond, les choses sont éternelles.
À découvrir en mars sur le site du Théâtre des Champs-Élysées, il y aura ces captations. Donc, Point d'orgue et La Voix humaine. Je me trompe ou on vous a vu énormément mettre en scène d'opéra pendant des années, un peu moins, alors forcément un peu moins là ces derniers mois, mais un peu moins ces dernières années. C'est à cause de vos fonctions de directeur du Festival d'Avignon ou c'est autre chose ?
C'est vrai, j'ai fait 43 productions d'opéra, donc c'est tout de même beaucoup. J'en faisais 3 par an à une certaine époque.
C'était trop ?
C'était peut-être trop, oui, avec le Festival d'Avignon. J'en fais quand même une ou deux par an, la plupart du temps à l'étranger, et c'est bien, il faut pas forcément en faire plus.
Le Festival d'Avignon, vous le dirigez jusqu'en 2022. Vous annoncerez fin mars, le 24, si je ne m'abuse, la programmation. Elle est prête ?
Oui, bien sûr, elle est prête, elle est finie. En général, la programmation est finie au mois de décembre, à quelques détails près. Et à ceci près que nous avons quelques inconnus, parce que nous avons des spectacles qui viennent de l'étranger, et on ne sait pas quelles seront les conditions pour des spectacles qui viennent d'Afrique du Sud ou même qui viennent de Belgique. On ne sait pas très très bien comment les choses vont se passer. Mais enfin, on croit à l'ouverture du festival, même si c'est pas un festival à 100% conforme à celui qu'on l'a connu. On aura peut-être des réductions de jauge, on aura probablement des contraintes sanitaires, mais on sait le faire parce qu'on a fait un petit festival au mois d'octobre et on sait accueillir le public dans des conditions sanitaires parfaites. Donc on sait le faire, mais il faut absolument qu'on ait un festival cette année et il faut que les théâtres réouvrent.
Et tout le monde du théâtre compte sur le festival, au-delà d'ailleurs de la programmation du Festival d'Avignon, il y a aussi toutes ces troupes qui viennent pendant le mois de juillet.
Oui, bien évidemment, le festival au mois de juillet a un impact très grand sur l'ensemble de l'année du monde du spectacle, et tous azimuts, hein, pour la danse, pour le théâtre, comme pour la musique. Donc, ne pas avoir de festival serait un signe absolument mortifère. Mais on ne l'imagine pas.
Vous avez échafaudé plusieurs scénarios ?
Oui, on travaille avec évidemment la ville et avec le préfet pour imaginer des scénarios, un plan A, un plan B, un plan C, avec 40% de jauge, avec 50% de jauge, avec des spectacles en plein air plus que des spectacles en salle. On a plusieurs possibilités et on verra comment évolue la situation. Évidemment, au mois de mars, on ne saura pas exactement quel sera le visage du festival en juillet.
Allez, retour à l'Opéra de Lyon. C'était en 2016 l'une de vos grandes productions, une musique d'Alévi, la juive.
Rachel, produit Seigneur, la grâce du t'élève, amène-toi bien tenant, confie à ton berceau. J'avais à ton bonheur oui, ma vie entière. Lisse-moi, t'ai pour moi. J'avais à ton bonheur oui, ma vie entière.
Petit extrait de La Juive d'Alévi, la voix de Nikolaï Choukov, l'orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par Daniele Rustioni, un enregistrement France Musique en 2016 à l'Opéra de Lyon, une mise en scène d'Olivier Py, mise en scène d'ailleurs qui devait partir très 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 loin en Australie, c'est annulé, reporté,
on le fera peut-être l'année prochaine et ce serait bien que la musique française, que la grande musique française, que le grand opéra français revienne déjà dans l'Hexagone parce qu'il a été un peu méprisé et puis qu'il tourne partout dans le monde. La musique d'Halévy n'a rien à envier à la musique de Verdi, c'est absolument magnifique et on pourrait remonter les pièces de Aubert, les grands Meyerbeer, j'en ai fait deux, j'ai un projet de faire les Vêpres siciliennes, c'est aussi le grand opéra français, en version française évidemment. Donc le grand opéra français, c'est un répertoire qu'il faut redécouvrir.
La voix humaine et point d'orgue au Théâtre des Champs-Élysées pour les caméras et pour les micros de France Musique, ça c'est en mars, ce sera le 27 mars sur France Musique. Le Festival d'Avignon, on en a parlé, 24 mars la programmation, mais il y a votre troisième casquette ou votre troisième bonnet, Olivier Py. C'est le comédien, c'est Miss Knife. Comment va Miss Knife?
Ça y est, j'ai le trac, ça y est. elle va comme tout le monde, elle a un masque, donc elle est moins glamoureuse que d'habitude. Non, mais c'est une chance inouïe de pouvoir chanter encore, puisque c'est ma passion, je le fais avec... une humilité extrême. Je fais pas tout avec humilité, je suis souvent immodeste. Mais alors quand il s'agit de chanter, là, je dois dire que je suis une grande humilité. Et puis j'ai la chance de travailler avec des chanteurs qui m'aident beaucoup. On parle beaucoup de technique vocale et vraiment c'est une des grandes passions de ma vie.
Le 14 mars, ça aura lieu quoi qu'il arrive, l'instant lyrique, Miss Knife,
Salgavo. Oui, ça aura lieu Salgavo. Quoi qu'il arrive et si c'est pas possible, je chanterai dans la rue. Qu'importe.
C'est pas loin de l'Élysée.
Voilà.
Et le 7 mai, Olivier Py and Friends, ça c'est ici, à la Maison de la Radio, avec quels amis? Patricia Petitbon, tiens.
Patricia Petitbon, Angélique Kidjo, Agnès Jaoui, voilà, des filles extraordinaires.
Et des musiciens du Philharmonique de Radio France.
Voilà, c'est une aventure absolument géniale de reprendre un répertoire que j'ai beaucoup chanté, mais que j'ai chanté plutôt en formation jazz, et d'en faire une version grand orchestre, ça m'excite énormément.
Rendez-vous le 7 mai à la Maison de la Radio pour ce Olivier Py and Friends qu'on espère avec des gens dans la salle, dans Studio 104. Point d'orgue et la voix humaine, tout est prêt, ça y est?
Oui, on doit faire une pré-générale à 15h, donc il vaut mieux que tout soit prêt.
On croise les doigts et on se quitte avec Miss Knife, et évidemment, la vie d'artiste.
La vie d'artiste, c'est l'errance, l'obscurité, la misère. Mais c'est la dernière chance de tutoyer l'univers. Dès que s'allument les lampes, la chenille dans ses haillons, par la magie de la rampe, se transformant en papillon. Loin dans le paysage des oubliés de l'histoire, on voit la charrette sans âge que dévore la nuit noire. On voit la charrette sans âge que dévore la nuit noire. Quand les critiques sont mauvaises, on prend un air de mépris. Et l'on se dit que foutaise, notre génie reste incompris. Notre génie reste incompris. Entre nos mains d'argent file, et l'on se paie de discours. Les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Surtout les 30 derniers jours. On voit la charrette sans âge que dévore la nuit noire. On voit la charrette sans âge que dévore la nuit noire. il arrive au grand malheur que l'on trouve la salle vide et l'on joue pour l'honneur, on ne craint plus le bide. On ne craint plus le bide, on ne craint plus le bide. Dans les loges mal chauffées, on se maquille sous un néon. Ce serait un conte de fées de jouer à l'Odéon.
La vie d'artiste, Miss Knife, le double musical d'Olivier Py. Notre invité ce matin, La Voix Humaine et Point d'Orgue, La Voix Humaine Poulenc, Point d'Orgue Thierry Esquèche au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Une captation qui sera à voir sur le site du théâtre et ce sera le 27 mars sur France Musique. Le texte d'Olivier Py est disponible chez Actes Sud.
À réécouter sur francemusique.fr.